habitée par deux communes, c'est la préfecture qui prend les rênes de la gestion de crise. Voilà. Et donc moi, je n'ai plus eu la main sur le dossier du moment où la préfecture a pris le dessus. Et je n'ai pas de retour. Bon, vous avez tous un document devant. Merci pour cette attente. Excusez-nous de ce petit retard. Donc, cette séance du conseil municipal est donc ouverte. Vous avez reçu une convocation en date du 14 août sur les 27 conseillers qui sont en exercice aujourd'hui. Il n'y en a que 23 présents. Nous avons des procurations pour Lauriane Tissot qui a donné procuration à Catherine Perret, Frédéric Goujat qui a donné procuration à Laurence Hoquet, David Serioli qui a donné procuration à Edith Allard et Samuel Mabou qui a donné procuration à Catherine Julien-Brèche. Il nous faut désigner un secrétaire de séance qui veut bien prendre la charge de cette fonction. Catherine, merci. Catherine Perret assurera le secrétariat. Alors, il vous est demandé... Alors, d'abord, on va passer aux remerciements. Non, tout d'abord, j'ai l'état civil. Excusez-moi, parce que j'ai deux... Par rapport à document que j'ai, il y a la délibération qui a été rajoutée, donc ça a décalé mes documents. Donc, cette séance est donc ouverte. L'état civil... Les mariages, le 27 juillet, Arthur Pellissier et Emma Gomet. Le 3 août, Sylvain Natchereau et Christelle Bia. Donc nous présentons toutes nos félicitations et tous nos voeux de bonheur aux nouveaux mariés. Les décès, le 17 juillet à Sallanches, Eva Vidal. Le 28 juillet à Sallanches, Simone Mabou. Le 8 août à Passy, Miroslava Valeshko. Et le 16 août à Sallanches, Maurice Grosset-Bourbange. Donc nous transmettons toutes nos condoléances et toutes nos sympathies à ces familles affectées par le départ d'un être cher. Alors, nous avons des remerciements. Des remerciements de l'association En passant par la montagne, qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour sa mise à disposition de la salle d'escalade du palais le 6 avril dernier pour la fête de l'escalade organisée par le club mixte d'escalade du Fayet. Le syndicat hippique et mulassier du Haut-Faucigny qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour la subvention versée au titre du budget 2019 ainsi que pour l'appui des services communaux lors de l'organisation de cette manifestation. Le musée du Haut-Val d'Arly qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour la subvention versée au titre du budget 2019. Et la famille Allard qui remercie Madame le maire et les élus du conseil municipal pour leur soutien à l'occasion du départ de Jean-Charles. Alors, la première délibération est une modification de l'ordre du jour. Il vous est demandé d'approuver le rajout d'une délibération qui concerne... Non, ben on m'a mis celle-là en premier. Je vous demande de pouvoir rajouter une délibération à l'ordre du jour, à savoir une motion contre la hausse de participation familiale dans les établissements d'accueil des jeunes enfants. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Merci. Donc, la deuxième délibération concerne l'approbation du dernier compte-rendu, du compte-rendu de la dernière séance. C'était la séance qui s'est tenue le 23 juillet et dont le compte-rendu vous a été transmis le 31 juillet. Y a-t-il des observations, des commentaires par rapport à ce compte-rendu qui vous a été adressé? Alors, des contre, des abstentions? Merci, la délibération est adoptée à l'unanimité. Donc la délibération numéro 3 concerne la délibération que je vous ai demandé de rajouter. C'est une motion contre la hausse de la participation familiale dans les établissements d'accueil des jeunes enfants. Alors, je reprenne mon document. Où est-ce qu'il est ? Je suis désolée. Je ne sais pas où il est. Ben, mon document d'introduction. Voilà. Excusez-moi. Voilà. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, il faut savoir qu'il y a une lettre circulaire de la CNAF, qui est donc la Caisse nationale d'allocations familiales, qui date du 7 juin, qui a été envoyée et qui prévoit une augmentation au 1er septembre 2019 des tarifs dans les établissements d'accueil des jeunes enfants. Donc cette augmentation, elle n'est pas sans conséquence pour les gestionnaires des structures, pour les familles et en particulier pour les élus locaux qui doivent faire voter cette augmentation au conseil municipal, l'intégrer dans le règlement du fonctionnement de l'ensemble des structures, mais également mettre à jour le contrat avec toutes les familles. Donc on nous demande, cette information est arrivée fin juin, et on nous demande de la mettre en vigueur au 1er septembre, en considérant que entre les deux, il y a le mois de juillet et le mois d'août, qui sont des temps de vacances. Donc le délai de souplesse qui est accordé par la Caisse nationale d'allocation familiale est dès à présent jugé par de nombreuses collectivités et de nombreux maires vraiment insuffisant. Donc il y a un courrier qui a été adressé à la CNAF en début de semaine par l'AMF qui demande un report de cette réforme et une diffusion rapide des outils de communication pour informer les familles de cette augmentation, mais surtout du fait qu'elle est décidée par la branche famille et non pas par les municipalités. Donc ce n'est pas aujourd'hui une initiative des municipalités, mais c'est la branche famille de la CAF. Voilà. Donc, est-ce que je vous relis tous les considérants, peut-être ? Oui. Je vais quand même vous relire les considérants par rapport à cette motion. Donc, considérant que la CNAF prévoit une hausse au 1er septembre 2019 des tarifs en établissement d'accueil des jeunes enfants, concrètement, cela implique une augmentation de la participation des familles de 0,8% chaque année jusqu'en 2022, soit une charge financière importante pour celle-ci. Considérant que les collectivités locales, gestionnaires de structures municipales dédiées à la petite enfance, n'ont pas été concertées par les services de l'État et sont contraintes par cette révision. Considérant que sur la forme, la CNAF n'a pas anticipé ce changement de tarif et qu'en conséquent, la commune a été informée que le 20 juin dernier pour une mise en œuvre au 1er septembre 2019. Considérant que les délais imposés par la CNAF ne permettent pas de préparer sereinement la rentrée 2019, en particulier la parfaite information des familles leur permettant d'anticiper dans leur budget cette augmentation de charges, l'actualisation du règlement de fonctionnement de la crèche ainsi que la mise à jour des contrats. Considérons donc que cette révision des tarifs fragilise non seulement la commune en tant que gestionnaire d'AEJ, mais aussi les familles qui découvriront tardivement la hausse des tarifs. En effet, dans un premier temps, les parents subiront une première augmentation de 0,8% en septembre 2019, une seconde dès janvier 2020, puis une chaque année au 1er janvier et quel que soit leur revenu. Considérant que les structures publiques de petite enfance sont des services de proximité essentiels aux habitants, qu'elles permettent à des ménages ne pouvant pas recourir au privé d'accéder à des modes de garde, qu'elles favorisent l'activité professionnelle des parents, notamment des mères en situation de monoparentalité, et qu'elles développent l'éveil et la socialisation des enfants les fréquentant. Considérant que la commune tient à mener une politique juste et volontariste en matière de petite enfance, alors même que cette compétence n'est pas obligatoire par les communes. En conséquence, elle engage des moyens importants pour répondre aux besoins des familles. Et afin d'assurer un service public de qualité, la commune de Megève assure des investissements importants, prend en charge les frais de change et les repas bio des enfants, ainsi que la mise en place d'une politique d'ouverture adaptée en adéquation aux besoins réels de sa population. Considérant enfin qu'il revient à la CNAF, agence publique directement rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé, d'assumer totalement cette lourde hausse de tarifs qui ne saurait être imputable à la municipalité. Alors, en annexe, vous avez le courrier adressé par le président de l'AMF, François Barouin, ainsi que Jean-Luc Moudinc, qui est le président de France Urbaine, qui a été adressé au directeur général de la CNAF. Et puis, vous avez également le courrier qui a été adressé aux établissements. C'est le courrier de la caisse de la CAF de Haute-Savoie qui vous explique en gros, qui vous donne les barèmes, les changements de barèmes au 1er septembre 2019 pour le taux de calcul, ainsi que la modification des plafonds que vous avez dans la page de derrière. Voilà. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour ça que vous avez eu un retard de présentation de vos documents du conseil municipal, c'est par rapport au rajout de cette motion. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est... Donc, vous avez eu exposé de cette motion et des raisons pour lesquelles cette motion vous avait été présentée ce soir. Il est demandé à la Caisse nationale d'allocation familiale et à l'État de ne pas alourdir le budget des familles de manière unilatérale et sans concertation. Il est demandé le report de la mise en application de la circulaire du 5 juin 2019 à minima au 1er janvier 2020. Et il est demandé que l'État assume sa décision en matière de communication auprès des familles qui seront les premières impactées afin de ne pas transférer la responsabilité de celle-ci sur le maire sortant. Voilà. Des commentaires? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci pour votre soutien sur cette démarche. Donc, la délibération numéro 4, elle concerne les affaires juridiques, délégation de services publics, approbation du principe de délégation de service public sous forme d'une concession pour la gestion des tennis de Megève et activités connexes, modification des éléments essentiels du futur contrat. Christophe Bougot.
Le palais est un équipement structurant de la commune et fait partie intégrante de l'offre de produits et de loisirs recherchés tant par la clientèle qui fréquente la station de Megève ou les stations voisines que par une clientèle familiale de résidents à l'année. L'actuel gymnase-tennis devra faire l'objet de travaux importants dans le cadre de la seconde phase de restructuration du palais, inversion des espaces gymnase-tennis avec la salle des congrès ou rénovation complète. Les travaux conduiront à la disparition du court couvert. La disparition du tennis couvert serait préjudiciable à l'activité tennis développée sur le territoire et à la vie de la section tennis du club des sports. En effet, seuls resteraient des tennis découverts impraticables en hiver et difficilement utilisables en intersaison. La municipalité a choisi de lancer une étude de faisabilité pour la création de tennis couvert, paddle, donc qui est une nouvelle pratique tendance des sports de balle, et un clubhouse sur le site actuel des tennis, qui prendrait deux emplacements des tennis actuels. Compte tenu du coût de l'investissement et de l'intérêt de bénéficier de l'expertise d'un professionnel pour le développement à l'année de cette activité, il est envisagé de recourir à une délégation de services publics. Dans ce contexte, le conseil municipal, par délibération en date du 12 mars 2019, a approuvé le principe de délégation de services publics sous forme d'une concession pour la gestion des tennis de Megève et activités connexes. Une consultation a été publiée en mars 2019. Aucune proposition n'a été remise. Il est donc proposé de modifier certains des éléments essentiels du futur contrat. Sont annexés à la présente délibération un rapport modifié présentant les éléments essentiels du futur contrat de délégation de services publics, ainsi qu'un projet modifié de contrat de concession. Pour mémoire, et sans que ces dispositions soient modifiées, le concessionnaire exploite à ses frais risques et périls et sous une direction unique. Je vais changer de micro. Merci Laurent. Sous une direction unique, la délégation des tennis et leurs activités annexes comprenant les tennis découverts, les tennis couverts et paddle couverts, clubhouse, construction à réaliser. Ces biens sont propriété de la commune. Le futur concessionnaire supportera toutes les dépenses relatives à la gestion du service public des tennis et des activités annexes et exploitera la gestion des dites activités à ses risques et périls. Il sera autorisé à percevoir directement l'intégralité des recettes d'exploitation, notamment les recettes auprès des usagers, les recettes annexes de location d'emplacements publicitaires et commerciaux, les recettes de location temporaire des locaux et d'une manière générale toutes les recettes liées à la gestion et à l'exploitation du service objet de la délégation. S'agissant de l'exploitation des activités raquettes et club house, le concessionnaire versera une redevance d'exploitation correspondant à 1% minimum du chiffre d'affaires net hors taxe des activités. Enfin, s'agissant de l'occupation du patrimoine bâti et non bâti, il versera au titre de l'occupation du domaine public de la commune une redevance annuelle d'un montant hors taxe de 25 000 euros. Les travaux initiaux sont estimés à 2,7 millions d'euros minimum hors taxe auxquels viendront s'ajouter les coûts de GER pour un montant estimé de 11 000 euros par an. Ces travaux seront totalement supportés par le futur délégataire. En conséquence, le contrat de délégation de services publics proposé aura une durée de 20 ans. Le point de départ de cette durée est subordonné à la purge du recours des tiers et du délai de retrait administratif à l'encontre de la délibération exécutoire autorisant la signature du contrat et de la purge du recours des tiers à l'encontre du permis de construire. Le dit permis devant être déposé dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation de la précédente condition suspensive. Pour rappel, à l'occasion de la première consultation, la durée contractuelle envisagée était de 15 ans. Sans modification, la commune souhaite que les périodes d'exploitation minimales suivantes soient retenues. Pour les tennis extérieurs, ouverture du 16 avril de l'année N au 15 novembre de l'année N. Pour les tennis couverts et paddle, ouverture toute l'année, fermeture annuelle maximale de 5 semaines. Pour le clubhouse, ouverture optimisée sur l'année, ouverture obligatoire pendant les périodes d'exploitation des tennis découverts et ou tennis couverts et paddle. Le concessionnaire pourra proposer des périodes d'exploitation supplémentaires. Enfin, la collectivité souhaite que des créneaux puissent être réservés dans les espaces délégués pour soutenir la vie associative locale, pratique loisirs ou compétition des sports de raquettes portés par les associations locales. À cette fin, en été, au moins 26 heures par semaine seront réservées à la collectivité. Ces réservations porteront exclusivement sur deux cours extérieurs. En hiver, au moins 13 heures par semaine seront réservées à la collectivité hors week-end et vacances scolaires, toutes zones. En été, juillet, organisation d'un tournoi de tennis FFT, réservation de 4 cours extérieurs, 8 heures par jour pendant 8 jours. Ce programme fera l'objet d'une concertation de manière semestrielle entre la collectivité et le concessionnaire. Eu égard aux obligations contraignantes de fonctionnement du service mises à la charge du concessionnaire dans ce cadre, la collectivité pourra verser une subvention d'exploitation forfaitaire au concessionnaire selon les modalités détaillées au contrat. Il y a lieu, dans ces conditions, de lancer une consultation en vue de l'attribution d'une délégation de service public sous la forme d'une concession pour la gestion et l'exploitation des tennis de Megève et activités annexes, le dit contrat étant soumis aux règles de passation des concessions de services dont le montant est inférieur au seuil communautaire de 5 225 000 euros et aux dispositions des articles L1411-1 et suivants du CGCT. Le déroulement de la procédure de passation sera le suivant. 1. Publication d'un avis de concession et communication du dossier de consultation. 2. Réception des candidatures et des offres. 3. Analyse des candidatures. 4. Établissement de la liste des candidats admis à participer à présenter une offre. 5. Analyse des offres. 6. Négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires ayant remis une proposition. 7. Mise au point du contrat de délégation de service public. 8. Approbation du choix du soumissionnaire et du contrat de délégation de service public par le conseil municipal. 9. Information des soumissionnaires du rejet de leur offre. 10. Signature du contrat de délégation de service public. 11. Transmission du contrat de délégation de service public à la sous-préfecture de Bonneville. Le projet modifié de contrat de concession est consultable au secrétariat général. En annexe, vous pouvez trouver un rapport de présentation, délégation de service public, la délégation de service public sous forme d'une concession pour la gestion et l'exploitation des tennis de Megève et les activités annexes, modification des éléments essentiels du futur contrat. Vous êtes invité à approuver le principe du recours à la délégation de service public sous forme d'une concession pour la gestion et l'exploitation des tennis de Megève et des activités annexes. Approuver les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire de service public, telles qu'elles sont décrites dans le rapport modifié ci-après annexé. Autoriser Madame le maire ou son représentant à lancer la procédure de passation d'un contrat de délégation de service public. Et enfin, autoriser Madame le maire ou son représentant à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de cette délibération. Donc c'est quasiment la même délibération que le 12 mars. Vous aurez noté que c'est surtout la durée qui a été allongée de 15 ans à 20 ans.
Question, les 13 heures pour la collectivité locale, c'est pour le club des sports, pour quoi exactement?
Absolument, au choix de la collectivité. Mais oui, c'est pour la pratique associative. Oui,
d'accord.
Club des sports ou autre entité.
Et qui décidera de quelle collectivité utiliseront les tennis à ce moment-là?
Il y aura la collectivité au moment où il y aura des demandes qui seront faites, et puis il y a une commission sport qui pourra le faire aussi.
Oui, Lionel Burry, j'ai juste une question, juste me rappeler, s'ajoutent les coûts des GER. GER, c'est quoi déjà au point de vue?
Gros entretien et renouvellement.
Merci.
Gros entretien, renouvellement. Donc voilà, donc cette délibération, on l'avait présentée au mois de mars pour une durée de 15 ans, et là, on n'a pas eu de réponse. Ben, on la relance avec une durée de 20 ans où l'amortissement est dans une période pour amortir un peu plus, de façon un peu plus longue, l'amortissement de l'investissement. Voilà. D'autres questions? Des contre? Des abstentions? Délibération adoptée. La délibération numéro 5 concerne les affaires juridiques. C'est une convention d'usage pour la gestion du site de l'ADI Nord, les Épenis Sud, zone humide, Aster, autorisation de signer. Un projet de restructuration du secteur de Roche-Brune se traduisant par le démontage de 4 remontées mécaniques et la création de 2 télésièges débrayables, d'un téléski, d'une piste de ski et du réseau neige associé, porte atteinte à certaines zones humides répertoriées sur le site. De manière plus précise, le projet a été réfléchi de manière à éviter au maximum les zones humides identifiées sur la zone d'étude. Il ne détruira donc pas de manière permanente ces milieux. Cependant, l'implantation du réseau neige impactera de manière temporaire 1647 m² de zones humides. Les milieux concernés sont des zones humides atlantiques et subatlantiques, seules ou en mosaïque avec des peuplements de grandes lèches et des bas marais alcalins. Les surfaces concernées sont respectivement 462 mètres carrés, 712 mètres carrés et 473 mètres carrés. À l'étude du projet, des mesures sont préconisées pour limiter l'impact temporaire sur ces milieux sensibles. Donc, création de tranchées non drainantes pour l'implantation du réseau neige, limitation de l'effet drainant de la tranchée, préconisation en termes de modalités de travaux, sondage pédologique à réaliser en amont, étrépage, respect de l'ordre des couches, utilisation de matériaux non drainants et étrépage des prairies humides. Le SDAGE 2016-2021 prévoit une compensation à hauteur de 200%, avec une compensation minimale à hauteur de 100% de la surface détruite par la création ou la restauration de zones humides fortement dégradées et une compensation complémentaire pour que le total atteigne 200% par amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées en visant des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. Les premiers 100% de compensation se traduiront par la remise en état après travaux de ces milieux humides via les différentes mesures préconisées ci-dessus. Concernant les deuxièmes 100% de la compensation, il est préconisé de mettre en place un plan de gestion d'une partie de la zone humide inventoriée par Aster, nommée Ladi Nord, les Épenisses Sud. La gestion n'est proposée que sur la zone localisée en terrain communal, soit une surface correspondant à 1835 m². La gestion consiste en la coupe de la plantation de résineux à l'origine de perturbations hydriques de la zone humide. L'ensemble des mesures environnementales évoquées ci-dessus sont présentées par une étude d'impact portée par le dossier de demande d'autorisation d'exécution des travaux. Dans le cadre de cette étude, la Société des remontées mécaniques de Megève s'engage à mettre en œuvre la mesure compensatoire concernant la zone humide Ladi Nord les Épenisses Sud et la présente convention vise à permettre à la SARMM de mettre en œuvre sur le terrain appartenant à de la mettre en œuvre sur le terrain appartenant à la commune de Megève. Donc vous avez en annexe la convention d'usage de la gestion du site de Ladi Nord les Épenisses Sud. Donc vous pouvez constater que la zone touchée elle est remise en état, ce sont les premiers, parce qu'en fait on nous demande de compenser à 200%. Donc la zone touchée, la première zone touchée, elle est remise en état, ce sont les premiers 100%, et les deuxièmes 100%, ils concernent la remise en état de la zone humide des Épenis du côté de, alors je sais pas, vous avez le plan pour la localiser, pardon, c'est en dessous de l'Adi, alors quand vous montez, vous prenez la route de l'Adi, comment vous expliquer?
C'est entre route du Boucher et route de l'Adi, le lieu-dit Les Cornes et le téléphérique. Voilà, tu as les quatre points.
Donc vous avez des questions? Pardon? Oui, en bas de avant, un petit peu avant. Ouais. Donc vous pouvez constater alors que on a une zone humide qui représente 1647 mètres carrés et que la zone qui est compensée sur la partie communale, elle est de 1835 mètres carrés, mais cette superficie de 1835 mètres carrés, elle correspond à la surface de l'extension des épicéas et des arbres qui ont poussé sur la zone humide et qui vont être retirés pour régénérer cette zone humide. Des questions? Donc, vous êtes invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention d'usage pour la gestion du site de Ladi Nord, les Épenisses Sud. C'est une zone humide Aster 1637, telle qu'annexée à la présente délibération, et autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à l'exécution de cette convention. Est-il des contre? Des abstentions? Délibération adoptée. La délibération numéro 6 concerne également c'est pas le même secteur, mais pour le même sujet, affaire juridique, convention d'usage pour la création d'îlots de sénescence au sein du bois des Mouillettes, autorisation de signer. Donc, un projet de restructuration du secteur de Roche-Brune se traduisant par le démontage de 4 montées mécaniques et la création de 2 télésièges débrayables, d'un téléski et d'une piste de ski et du réseau neige associé engendre le déboisement d'environ 9 hectares de boisement, dont certains sont considérés comme étant d'intérêt pour des espèces patrimoniales, la boxibomie verte, les chauves-souris, des petites chouettes de montagne, des oiseaux forestiers comme le pic tétractyle et d'autres espèces. De ce fait, afin de compenser cette perte pour les espèces et groupes d'espèces protégées mentionnés ci-dessus, le maître d'ouvrage s'engage à mettre en place des îlots de sénescence sur des boisements situés à proximité du projet. L'objectif de ce classement sera d'assurer la pérennité de ces espèces sur le domaine de Roche-Brune. Suite à des échanges avec les services de l'État, des coefficients différents selon l'intérêt des boisements ont été appliqués et ont amené à la recherche d'une surface de 21 hectares à classer en îlot de sénescence. Pour rappel, des îlots de sénescence correspondent à une zone forestière laissée en vieillissement naturel, favorisant ainsi l'apparition de bois morts sur pied et au sol. Les îlots de sénescence n'ont donc pas de limite de durée et ne doivent plus faire l'objet d'interventions forestières. Diverses expertises ont été menées par le Bureau d'études Agrestis et ONF et ont permis d'identifier différents secteurs pouvant être proposés pour le classement en îlots de sénescence. L'objectif a été de créer deux types d'îlots, ne faisant ainsi plus l'objet d'exploitation forestière. Des îlots de sénescence isolés, l'intérêt est de maintenir une ressource en gîte arboricole et en milieu arboré, mature au sein des boisements présents. La présence de ces îlots permettra notamment aux chiroptères présents sur une parcelle abattue de bénéficier d'une ressource en gîte arboricole proche et ainsi de pouvoir continuer à exploiter les parcelles attenantes. Un îlot de sénescence continue, son intérêt sera de créer un massif forestier mature de grande taille. Sur ce principe, il est ainsi proposé la création d'un îlot isolé d'environ 4,97 hectares sur la zone B2 avec la zone 1, 6 et 8 et un îlot continu de 17,3 hectares sur des zones A, B1, 3, 4 et 5 et donc d'une surface totale d'environ 22 hectares d'îlots de sénescence créés. La carte figurant dans la convention localise les différents îlots de sénescence identifiés pour la compensation et les différents propriétaires concernés. La convention ne concerne que les parcelles appartenant à la commune de Megève, soit les îlots numérotés 1, 3 et 4. Donc vous avez à côté la convention adossée à la création de ces îlots de sénescence. Il faut savoir qu'à ce stade, rien n'est exigé. C'est une proposition qui a été faite par le maître d'œuvre. Et c'est des ratios qui sont indiqués et qui sont en général demandés par les administrations. Donc là, il y a la société Agrestis qui a travaillé sur le dossier et la DDT. Et bon, on est largement au-dessus des seuils. Sur les 22 hectares, on est largement au-dessus des seuils qui sont demandés. Donc théoriquement, on devrait peut-être être en dessous, peut-être en dessus, mais c'est une proposition qui est faite. Donc il faut savoir que ce travail il a été fait en collaboration avec l'ONF. Tout d'abord, pour répertorier les parcelles, celles qui avaient un intérêt écologique, afin de ménager l'impact qui va être créé par l'implantation du projet. Et puis, il y a aussi un intérêt en termes d'exploitation forestière. Les parcelles qui sont retenues ont été au maximum celles qui sont difficiles d'accès, qui ne sont pas exploitables et qui ont des difficultés d'accessibilité pour être exploitées au niveau des bois. Donc, ce sont des bois qui sont normalement difficilement accessibles. Et puis, il y a eu aussi un intérêt foncier. Dans la mesure où, la convention elle est faite avec des propriétaires bienveillants, en l'occurrence la collectivité, pour faciliter la signature de ces conventions. Voilà. Des questions ?
Oui, j'ai juste une question. Il n'y aura quand même pas un minimum d'entretien de cette forêt ?
Non, normalement, on les laisse. Les îlots de sénescence, normalement, on ne les touche pas.
Oui, c'est un peu dommage quand même.
On laisse vieillir les arbres parce qu'en fait, en laissant vieillir les arbres, on recrée de l'habitat qui a été, dans ce qui va être défriché, les 9 hectares qui vont être défrichés, il y a de l'habitat, il y a de la faune. Et en fait, il faut que cette faune qu'on a dénichée de son habitat, elle puisse retrouver un habitat et avoir un habitat sûr. Donc, voilà.
Pour les espèces qui sont citées dans le texte, donc le pic tridactyle et puis les petites chouettes, tengmalm et chevêchettes, leur problème à elles, c'est de trouver des arbres creux. Et un arbre creux, une fois qu'il est creux, il ne reste pas longtemps sur pied, il tombe. Donc il faut qu'elles puissent trouver leur habitat. C'est pour ça qu'il faut laisser vieillir ces arbres.
D'autres questions ? Alors, on va passer au vote. Donc, vous êtes invité à autoriser Madame le maire ou son représentant à signer la convention d'usage pour la création d'îlots de sénescence au sein du bois des Mouillettes, tel qu'annexé à la présente délibération, et autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à l'exécution de cette convention. Y a-t-il des contre ? Un contre, Sylviane Grosset-Jeannin. Des abstentions ? Merci. Pardon. J'ai pas vu. Deux abstentions. Alors, un contre, Sylviane Grosset-Jeannin, et deux abstentions, Lionel Bury et Micheline Carpano. La délibération numéro 7 concerne le pôle marché et achat public, exploitation du restaurant du refuge du Calvaire, contrat de concession, approbation, Laurent Soquet.
La commune concède depuis de nombreuses années l'exploitation du restaurant du refuge du Calvaire, situé 592 Montée du Calvaire à Megève. Le contrat en cours va s'achever le 30 septembre prochain. Afin d'assurer une continuité dans l'exploitation de ce service, le conseil municipal a approuvé, en avril dernier, le lancement d'une nouvelle procédure. Peu de travaux ont été effectués dans ce bâtiment. Les équipements sont vieillissants. Les locaux mis à disposition, notamment la cuisine, la plonge et la réserve, doivent faire l'objet d'une rénovation. Le gros matériel doit être également renouvelé. Aussi, le projet de contrat prévoyait deux dispositions visant la prise en charge des travaux nécessaires à la rénovation et au renouvellement du gros matériel utile au fonctionnement de la cuisine par le concessionnaire. Cet investissement était estimé à près de 200 000 euros hors taxes. Une consultation a été lancée le 20 mai 2019 en vue de conclure ce contrat de concession de service, soumis aux règles de passation des concessions dont le montant est inférieur au seuil communautaire. Le délai de remise des propositions était fixé au 19 juin 2019. Une commission s'est réunie le 11 juillet 2019. Elle a procédé à l'ouverture, l'analyse et l'admission de la seule candidature reçue. Cette proposition avait été déposée par M. Stéphane Soquet-Juglar. Les membres de la commission ont également ouvert l'offre et ont procédé à son admission. Le 1er août, la commission a analysé l'offre et proposé l'ouverture d'une phase de négociation menée par Mme le maire. La commission a pu émettre un avis sur l'offre finale le 13 août dernier. Les principales caractéristiques du contrat sont les suivantes. Objet, le concessionnaire exploite et gère le restaurant du refuge du Calvaire. Un programme de travaux a été proposé et accepté par la collectivité. Il porte sur le réaménagement de l'espace bar, l'installation d'une porte automatique entre la cuisine et la salle de restauration, le pose de revêtements muraux, travaux d'électricité dans les différents espaces, alimentation, prise, nouvel éclairage, installation de nouveaux équipements pour la cuisine, four, tout réfrigéré, table, inox, plonge, lave-vaisselle, lave-verre, chambre froide et le mobilier. La totalité de cet investissement reviendra à la collectivité à la fin de la concession, soit sans indemnité. Les devis transmis par le candidat s'élèvent à 197 491,57 euros hors taxes. Le service sera proposé tous les jours en saison d'hiver et d'été jusqu'à mi-septembre, du jeudi midi au dimanche midi en intersaison. La fermeture de l'établissement est prévue en mai et mi-octobre à mi-novembre. Durée. La durée du contrat de concession a été fixée en fonction du temps raisonnablement escompté pour que le concessionnaire puisse amortir les investissements réalisés pour l'exploitation du service. Détaillé ci-dessus, avec un retour sur les capitaux investis. Ainsi, la durée de contrat sera de 10 ans à compter du 1er octobre 2019. Disposition financière. Bien que cette gestion ne soit pas qualifiée de service public, le risque d'exploitation est transféré au concessionnaire. Sa rémunération est liée au résultat de son activité. Une grille de tarifs a été proposée avec l'offre du candidat. Ils pourront évoluer à chaque date anniversaire du contrat et leur modification sera discutée avec la commune au préalable. Il est rappelé que le concessionnaire s'engage sur un investissement initial à hauteur de 197 491,57 € hors taxes, détaillé ci-dessus. Le concessionnaire versera à la commune une redevance fixe annuelle de 17 000 € hors taxes, correspondant à l'occupation du domaine public. Elle sera revalorisée chaque année selon la variation de l'indice du coût de la construction. Il sera exonéré d'une partie de la redevance fixe pour la première année seulement. Cette exonération correspond à 3/12 du montant de la redevance, soit 4 250 € hors taxes. La première année du contrat, la redevance fixe sera donc de 12 750 € hors taxes. En plus, il s'engage à verser une redevance variable calculée à partir d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxes. Ce pourcentage est de 4%. Cette redevance commencera à s'appliquer compté du 1er janvier 2021 et sur le chiffre d'affaires généré à compter de cette date-là. Donc en annexe, vous avez la présentation de l'économie générale du contrat ainsi que le contrat de concession. Le conseil municipal est invité à approuver les termes du contrat de concession de service visant l'exploitation du restaurant du refuge du Calvaire présenté et annexé à la présente délibération. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le présent contrat avec Monsieur Stéphane Soquet-Juglard, demeurant 290 route de Plate à demi-quartier, et donner tout pouvoir à Madame le maire afin de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette présente délibération.
Alors, il faut savoir que ça a été une demande. L'exonération de la redevance fixe, elle correspond aux 3 mois pendant lesquels il va réaliser les travaux. Donc, les travaux vont commencer dès que 15, je crois qu'il va fermer, il nous a dit le 15-20 septembre. Et donc, il est exonéré de la redevance fixe pour les mois de octobre, novembre et décembre. Et donc, ce qui correspond aux 4 250 € hors taxes. Et donc, le montant de la part fixe sera donc de 12 750 €. Et en ce qui concerne la redevance variable, il nous a conclu d'une exonération des 4% sur la première année. Et donc, la redevance sur la part variable recommencera à s'appliquer à partir du 1er janvier 2021. Voilà. Et le chiffre sur le chiffre d'affaires qui sera généré à partir du 1er janvier 2021. Donc les 3 mois de travaux pour la part fixe et puis une exonération de la part variable pendant 1 an. Donc départ de la part variable des 4% à partir du 1er janvier 2021. Ce sont les mêmes personnes qui ont obtenu le...
C'est parfait. Parfait.
Beaucoup de retours positifs sur cet établissement et c'est un gestionnaire vraiment très correct aussi envers la collectivité par rapport à le règlement de ses redevances et de son travail.
Les projets de réouverture donc pour l'inauguration du sapin. Donc ça va être les délais sont très très courts.
D'autres questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération numéro 8 correspond au pôle marché et achat public. C'est l'aménagement d'un skatepark, marché de travaux, autorisation de signer le contrat. Laurent Soquet.
La commune de Megève a pour projet de réaliser des travaux d'aménagement d'un skatepark. Pour assister la commune lors de la conception et de l'exécution de cette opération, un maître d'œuvre a été choisi. Il s'agit de l'entreprise Skatepark Service Conseil SSC située à Montpellier. La commune a engagé une procédure pour la conclusion du contrat de travaux. Une publicité est parue au bulletin officiel des annonces des marchés publics sur le profil acheteur de la collectivité ainsi que sur la plateforme de dématérialisation AWS-H1. La date limite de remise des offres était le 22 juillet 2019. Le maître d'œuvre a procédé à l'analyse des offres. Il a remis son rapport présenté à la commission MAPA le 9 août pour rendre son avis sur l'attribution du marché. Ainsi, il est proposé de conclure le marché avec l'entreprise suivante, Sol Savoie, pour un montant global de 213 695,32 € hors taxes. Le conseil municipal est invité à attribuer le marché à la société Sol Savoie située 458 rue du Mont-Blanc, 74 540 à Saint-Félix pour un montant de 213 695,32 € hors taxes. autoriser Madame le maire ou son représentant à signer le marché et prévoir les crédits correspondants sur le budget général au chapitre 21.
Pour mémoire, vous pouvez nous indiquer où est prévu ce skatepark.
Alors,
je ne me rappelle plus.
L'aménagement est situé à côté de l'aire de jeu actuelle, sur la droite. Il y avait une grosse bosse de terre qui avait été matérialisée, qui n'était plus très utilisée. Donc cette grosse bosse a été au printemps rabotée déjà par le service montagne, en tout cas raccourcie et repensée pour la pente pour améliorer la luge des enfants de Meige. Et puis donc créer une plateforme devant, et donc ça permettra aussi aux enfants de pouvoir profiter de l'espace jeu, et éventuellement pour les parents de pouvoir amener une famille, on va dire, de 3 à 13 ans ou à 12 ans sur le même secteur. Et en plus, comme on a déjà installé des toilettes automatiques, je pense que ça a aussi un confort pour l'activité.
D'autres questions? Donc des contre, des abstentions, délibération adoptée. La délibération numéro 9 concerne le pôle marché et achat public, vente à emporter, chalet de l'Esquimau, contrat de concession, autorisation, lancement de procédure, Laurent Soquet.
La commune de Megève possède une propriété communale 6-6 montée du Calvaire à Megève. Depuis quelques années, ce bâtiment est destiné à accueillir une activité commerciale. Dernièrement, une convention d'occupation précaire avait été conclue avec un particulier. L'occupant menait une activité de petite restauration et de vente à emporter. Le contrat d'occupation s'achève le 31 octobre 2019. Cette activité contribue à animer le secteur dit place de la résistance. Par conséquent, il a été décidé de conclure un nouveau contrat. Seulement, l'exploitation à un tiers sera confiée après avoir subi une procédure suivant le régime du contrat de concession. Ce régime juridique assure une mise en concurrence pour confier l'exploitation et la gestion d'une petite restauration et vente à emporter à un ou plusieurs opérateurs économiques. Le concessionnaire. Bien que cette gestion ne soit pas qualifiée de service public, le risque de l'exploitation est transféré à ce dernier. La rémunération du concessionnaire est liée au résultat de l'exploitation du service. Il ne peut, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d'une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l'occupation à quelque autre droit. En contrepartie, il perçoit et conserve l'intégralité des recettes liées à cette exploitation. Pour l'exécution de la prestation, un local dans le petit chalet dit l'Esquimau, d'une surface de 32 mètres carrés, cet espace est composé d'une pièce principale de 19 mètres carrés, d'une seconde de 13 mètres carrés et d'une terrasse de 14,60 mètres carrés. Afin d'affirmer le caractère commercial de cet espace, il sera exigé du futur concessionnaire de prendre à sa charge les travaux nécessaires à l'aménagement d'une petite cuisine, de la salle de restauration et de la terrasse. Des travaux d'électricité et de rénovation des installations de chauffage seront également à prévoir. Cet investissement initial est estimé à près de 15 000 euros hors taxes. La durée de contrat de concession sera alors fixée en fonction du temps raisonnable escompté pour que le concessionnaire puisse amortir les investissements réalisés pour l'exploitation du service avec un retour sur les capitaux investis. Ainsi, il est proposé de fixer la durée du contrat au maximum à 6 ans. Le concessionnaire versera à la collectivité au titre de l'occupation du patrimoine public pour exercer cette activité une redevance fixe de 5 400 euros hors taxes par an, ainsi qu'une redevance variable calculée en fonction du chiffre d'affaires dont le pourcentage sera proposé par le candidat et au minimum de 2%. Il y a lieu dans ces conditions de lancer une consultation en vue d'attribuer un contrat de concession de service pour l'exploitation d'une petite restauration et vente à emporter au chalet l'Esquimau. Donc en annexe, vous avez le projet de contrat de concession. Le conseil municipal est invité à approuver le principe du recours au contrat de concession pour l'exploitation d'une petite restauration et vente à emporter au chalet l'Esquimau. Approuver les principales caractéristiques du contrat dressé sur les bases du projet annexé à la présente délibération et autoriser Madame le maire ou son représentant à lancer la procédure de passation d'un contrat de concession et autoriser Madame le maire ou son représentant à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Il est seulement un petit peu regrettable que l'Eskimo, enfin la yourte actuellement, soit fermée le soir. Ça n'ouvre que le midi, et c'est dommage.
Je pense qu'il n'a pas tellement... Les locaux ne sont peut-être pas propices non plus à de la clientèle beaucoup assise. Il fait de la vente à emporter. Et puis, bon, il y a les toilettes, il y a des
commodités... Midi, c'est toujours plein.
Oui. C'est dommage. Donc actuellement, lui, il a une redevance fixe uniquement, hein, qui est celle de 5400 euros, mais il n'y a pas de part variable sur le... Donc dans le projet de la présente concession qui est relancée, là, on part sur 6 ans, avec un investissement sur la cuisine de 15 000 euros. Il est redemandé une part fixe de 5400 euros, et là, on y adosse une part variable... d'un montant de 2% minimum, qui pourra peut-être être sur le futur attributaire augmenté, hein, si son choix. Par contre, on lui demande une ouverture 7 jours sur 7 en saison, après à lui de faire des offres pour l'intersaison.
Midi et soir, ou que le midi, comme il fait actuellement?
Je pense, oui, c'est dans les négociations, mais...
C'est dommage
parce que... un contexte particulier, parce que normalement, il ne peut pas tellement mettre les gens assis dans son local.
Il y a une quinzaine de places, en gros. Mais c'est dommage parce que c'est un établissement qui permet à des gens qui ont des petits moyens de se nourrir de façon... c'est bio, c'est bien, et c'est regrettable que ce ne soit pas ouvert le soir.
Ce sera peut-être proposé dans le cadre des négociations avec
le futur. Lui va peut-être le proposer, mais j'en sais rien. Mais s'il le fait pas, enfin, je sais pas s'il va répondre. Il y aura d'autres candidats aussi.
C'est pas qui va répondre.
Il y aura peut-être d'autres candidats également.
Juste une petite question pour les travaux. 15 000 euros, ça me paraît pas beaucoup parce qu'en termes d'accessibilité, on va pas être un peu embêté, non? Parce que je sais que c'est pas un coin qui est pratique.
Ils sont en dessous de 19 places là.
Ouais, je sais pas. C'est peut-être à regarder, mais c'est peut-être en dessous de 19, je ne sais pas.
Après, tout ce qui est de l'ADAP, l'accessibilité à personnes à mobilité réduite, normalement, c'est le propriétaire qui doit faire le nécessaire des travaux, donc en l'occurrence, la commune.
Oui, non, mais c'est pour ça que je parle que...
D'autres questions ? Des contre, des abstentions, délibération adoptée. La délibération numéro 10 concerne le pôle finance et programmation, sportif de haut niveau, sélection et classement au championnat du monde junior de ski alpin de Val di Fassa, Florian Loriot, versement de primes, Christophe Bougot.
Je pense que je peux vous la faire assez courte. Donc on avait... réévaluer les montants des primes pour les juniors lors de du conseil municipal du 23 juillet. Et donc c'est le réajustement de la prime attribuée à monsieur Florian Loriot. C'est ça, donc il y a les lettres du demandeur en annexe. Et vous êtes invité à rapporter la délibération 2019-149 d'elle présentée au conseil municipal en séance du 18 juin 2019. Confirmer le maintien du versement des primes en l'état, prendre acte du classement en ski alpin au championnat du monde junior de Val di Fassa de M. Florian Loriot, où il a remporté une médaille de bronze en Super G, attribuer à M. Florian Loriot une prime de 1000 euros au titre de son classement, imputer la dépense sur le budget principal au compte 67-14, charges exceptionnelles, bourses et prix, et enfin autoriser Madame le maire ou son représentant à procéder au versement de ces primes. Donc pour rappel, on lui avait attribué une prime de 150 euros pour son résultat. Et donc là, ça passe à 1000 euros.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée. Pôle finance et programmation, intercommunalité, ordures ménagères, désaffectation de biens. Laurent Soquet.
Depuis 2013, les communes membres ainsi que le CIVOM du Jaillet ont mis à disposition de la communauté de communes des biens et équipements nécessaires à la collecte des déchets ménagers. Ces biens peuvent être restitués lorsqu'ils ne sont plus utilisés par l'exercice de cette compétence. Les travaux d'implantation de conteneurs semi-enterrés sur le secteur demi-quartier Megève-Praz-sur-Arly ayant débuté en octobre 2018, les abris à ordures ménagères situés sur les communes précitées doivent par conséquent être supprimés et il convient donc de les restituer aux communes. Un procès-verbal de restitution sera signé au plus tard 2 mois après la présente délibération. La commune de Megève a étudié les possibilités de réutilisation des biens. À défaut d'utilité générale de ce type d'équipement, il sera procédé à la mise en vente. Il est précisé que fin 2018, un camion baume ainsi que des abris à ordures ménagères ont déjà fait l'objet d'une désaffectation et réintégration dans l'inventaire de la commune. Donc en annexe, vous avez le tableau de désaffectation de biens. Le conseil municipal est invité à constater dans les conditions ainsi définies la désaffectation des abris à ordures ménagères, mettant fin à la mise à disposition de cet équipement de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Approuver la réintégration de ces biens dans l'inventaire de la commune de Megève. Et donner tout pouvoir à Madame le maire ou son représentant à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y rapportant et à effectuer les formalités nécessaires. Autoriser Madame le maire aux formalités d'annulation de ses biens. Une décision sera prise par Madame le maire afin d'information, avec information communiquée aux membres de l'Assemblée délibérante lors de la prochaine réunion du Conseil.
Des contre, des abstentions. Délibération adoptée. La délibération numéro 12 concerne la convention d'implantation et d'usage des conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Autorisation de signer Laurence Hoquet.
Donc depuis 2013, les communes membres ainsi que le CIVOM du Jaillet ont transféré la compétence déchets à la communauté de communes qui, à ce jour, a pour projet de remplacer les mazots existants par des conteneurs semi-enterrés. La maîtrise du foncier revient à la commune. C'est pourquoi une convention doit être établie avec la SFHM pour l'implantation de 8 conteneurs sur la parcelle AI7 située sur le plateau du Mont d'Arbois. Afin de permettre le démarrage des travaux, il convient d'établir une convention d'occupation entre la commune et la SFHM pour le compte de la CCPMB. Donc en annexe, vous avez le plan d'implantation, convention d'implantation et d'usage de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Donc, proposition, le conseil municipal est invité à approuver la convention relative à l'implantation de 8 conteneurs sur la parcelle A17 appartenant à la SFHM et autoriser Madame le maire à signer tout document administratif nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Vous avez donc le plan d'implantation en annexe.
À peu près à l'endroit où il se situe actuellement.
Situé à peu près aujourd'hui où il y a le mazo en face de la taverne.
Est-il des contre, des abstentions, délibération adoptée. Délibération numéro 13, pôle ingénierie infrastructure réseau, mise en place d'une convention relative à l'implantation d'un poteau incendie sur la parcelle privée AT79-797 route du Bouchet. Christophe Bougot.
La lutte contre l'incendie s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire. Cette obligation passe par celle notamment de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que les poteaux incendies sur le territoire de Megève. Afin de répondre aux nouvelles directives de l'arrêté préfectoral numéro 2017-0009, il convient de mettre en place une convention entre les propriétaires fonciers et la collectivité propriétaire des PEI. La présente convention a pour but d'autoriser l'implantation d'un poteau incendie normalisé assurant un débit minimum de 60 m3/h sur la parcelle privée AT79-797 route du Bouchet, appartenant à M. Grosset-Grange François. En annexe, vous avez la convention relative à l'installation d'un poteau incendie entre la commune et M. Grosset-Grange. Proposition, le conseil municipal est invité à approuver la convention relative à l'implantation d'un poteau incendie sur la parcelle privée AT79 et autoriser le maire à signer tout document administratif nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Alors PEI, c'est point d'eau incendie.
Est-il des contre, des abstentions, délibération adoptée. La délibération 14 concerne le pôle ressources humaines, emploi et compétences, ses rémunérations du personnel saisonnier et ou temporaire, Jocelyne Coe.
Il vous est indiqué qu'au terme de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 18 mois consécutifs. Un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois consécutifs. D'autre part, au terme de l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, la délibération créant un emploi en application de l'article 3 doit préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. La collectivité souhaite poursuivre la dynamique mise en œuvre pour fidéliser les saisonniers, gagnant ainsi en compétences et en qualité de service pour les usagers. Or, elle se heurte de plus en plus à des difficultés pour procéder au recrutement d'agents sur des emplois saisonniers. La concurrence accrue avec le secteur privé est une raison importante qui s'ajoute aux difficultés d'hébergement et au coût de la vie en station et en saison. En outre, les rémunérations pouvant être proposées au regard de la spécificité des besoins de la collectivité et de la technicité et des compétences attendues sur certains postes peuvent constituer un dernier frein. Afin de tenir compte de ces difficultés, il est proposé de réactualiser les modalités de rémunération des agents saisonniers pour disposer du nouveau cadre de rémunération globale et exhaustif. Dans la mesure où la commune ne prend plus directement en charge, là il y a une petite erreur, hein, depuis le 1er décembre 2018, l'indemnisation des personnes en recherche d'emploi, chômage, il est précisé que cette amélioration de la rémunération des agents recrutés sur emploi saisonnier n'aura pas d'impact financier pour elles à la fin de leur contrat. Proposition, la collectivité se trouve confrontée à des besoins de personnel saisonnier et ou temporaire, et il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à recruter pour ses besoins des agents. Vous êtes donc invité à premièrement autoriser Madame le maire à recruter dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et pour faire face aux besoins saisonniers et ou temporaires précités des agents contractuels correspondant au cadre d'emploi dont vous avez la liste. Deuxièmement, dire que les agents devront avoir le niveau d'études correspondant au diplôme ou titre permettant l'accès aux différents grades précités. Troisièmement, dire que la rémunération de ces agents contractuels s'effectuera conformément au tableau donc, qui vous est décrit dans chaque pôle par poste, diplôme et grade, avec le régime indemnitaire qui correspond. Alors, ensuite, quatrièmement, calculer l'ancienneté selon les tableaux qui sont répertoriés par pôle. Vous avez le pôle fait, la DGAE, la police municipale, l'office du tourisme, culture et palais. Cinquièmement, autoriser en conséquence Madame le maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels. Sixièmement, dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires sont inscrits au budget d'exercice en cours, chapitre 012. Septièmement, abroger la délibération numéro 2019-015-DEL en date du 15 janvier 2019.
Voilà. Il des contre, des abstentions. Délibération adoptée. La délibération numéro 15. Pôle ressources humaines, emploi et compétences, recrutement d'agents contractuels sur un emploi non permanent dans le cadre des besoins liés à un accroissement saisonnier et temporaire d'activité. Jocelyne Co.
Il vous est indiqué qu'au terme de l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois consécutifs et ou un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs. Proposition, vous êtes invité à créer deux postes à temps complet au sein du pôle comme Ève à l'événementiel. Deuxièmement, créer 24 postes à temps complet et temps non complet au sein du pôle sport, dont vous avez tout le détail par pôle là aussi. Et troisièmement, créer 12 postes à temps complet au sein de la DGAE, pôle montagne et voirie. Quatrièmement, préciser que la rémunération des saisonniers se fera conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20 août 2019. Autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour faire face aux besoins saisonniers d'activité et ou d'accroissement temporaire d'activité précitée. Indiquer que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chapitre 012.
Les contre, les abstentions, délibération adoptée. La dernière délibération de ce conseil municipal, pôle ressources humaines, emploi et compétences, tableau des emplois permanents, Jocelyne Co.
Il est rappelé que les effectifs nécessaires au fonctionnement des services communaux font l'objet d'un état annexé au budget primitif voté par le conseil municipal, tableau régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des besoins recensés, ainsi que des transformations résultant d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite à des concours, de nomination en qualité de stagiaire, ainsi que de tout recrutement en vue de pourvoir toute vacance de poste permanent. Vous êtes invités à modifier au 1er septembre 2019 les postes donc décrits dans le tableau qui vous est présenté. C'est simplement un changement d'intitulé de poste et non pas de grade.
Des contre, des abstentions, délibération adoptée. Et oui, ouais. On a fini ce conseil municipal. Je vous rappelle les dates des prochains conseils municipaux, celui du mois de septembre qui se tiendra le 24 et celui du mois d'octobre le 22. Voilà, merci pour votre présence ce soir et bonne soirée.